Moi, j'ai été très intéressé par les différents exposés. Par rapport au dernier, je me soucie effectivement d'introduire l'e-learning dans les formations de gériatre et de gérontologie auxquelles je participe. Donc, comment est-ce qu'on peut collaborer avec vous pour améliorer ces formations? On a commencé, mais je constate qu'il y a un gros effort à faire pour les rendre très performantes par rapport à ce que j'ai vu notamment à l'étranger, par rapport à ce que vous faites. La deuxième question concerne les exposés. Alors j'ai été très intéressé par l'exposé sur l'Algérie parce qu'il était très interactif et je me suis justement par rapport au premier exposé demandé quelle était la disponibilité du tuteur 24 heures sur 24 par rapport aux questions, l'accès libre des étudiants aux questions, parce que ça me paraît très important dans la progression de la formation et dans le dialogue. Voilà les deux questions.
Développer nos relations, oui, on peut toujours, cela dit... Le point de départ de cette remise en cause sur la manière de faire des cours, à chaque fois le médecin arrivait, faisait son PowerPoint, c'était très passif, c'est une formation en pédagogie. Cela dit, je pense qu'il faut des outils pédagogiques, c'est le point de départ. Ensuite, il faut constituer un groupe de référents pour amorcer la pompe. Et j'ai tendance à dire que le reste suit du moment que les informaticiens... suivre derrière. En fait, la maintenance est assez... l'alimentation de ce genre de plateforme est assez simple, pour peu qu'on ait une formation initiale à son utilisation, à son alimentation. Mais
c'est pratique, comment on peut travailler avec vous?
Ben, je suis praticien hospitalier à l'hôpital de Troyes, j'ai pas de carte, mais je peux vous donner mes coordonnées après. On se
voit.
Je ne suis pas lié avec l'UTT pour ce programme-là, non. Mais c'est vrai que l'UTT a également des pistes dans ce sens, et ils sont également très actifs. Très bien, on se voit ensuite. Très bien.
Par rapport au premier exposé, disponibilité et formation de l'encadrant, de l'équipe d'encadrant, 24h sur 24, pour répondre aux questions, pas 24h sur 24, mais la possibilité d'accès libre de l'étudiant au tuteur. Et deuxièmement,
non, il y a c'est pas au tuteur, c'est au cours.
Au professeur.
Au cours, au test. Non, au cours et au test.
On peut utiliser de la moustique.
C'est pas là.
C'est l'accès 24 ans sur 24, c'est l'accès pour écouter le cours.
Oui, mais il faut qu'il puisse dialoguer aussi avec le professeur. C'est
non,
pas
non,
dans
non,
votre
non,
cas.
Non, le dialogue se fait au moment du présentiel.
Comment
le dialogue, l'échange se fait au moment du présentiel.
Au moment du présentiel.
Voilà, les questions, elles sont mises quand l'étudiant a envie de les mettre. Et elles sont fermées, en fait, 3 jours avant le présentiel pour qu'on ait le temps de préparer le cours.
Mais est-ce qu'il y a, par exemple...
Mais on ne répond pas par mail...
Alors, bon, ceci dit, ça c'est un choix, mais c'est vrai que pour avancer dans ce genre de débat, ça peut être un choix aussi de dire il y a des réponses qui sont apportées. Mais ce n'est pas forcément 24 heures sur 24
non,
pour
c'est
le tuteur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des temps, un rendez-vous, en fait,
voilà,
hein, même rendez-vous. À distance, un rendez-vous, même asynchrone, c'est-à-dire que le rendez-vous, il n'est pas forcément en présence des autres, mais on sait que le formateur ou le tuteur va répondre le vendredi de 8 à 10, donc à 10 heures, on aura des réponses sur tout ce qui s'est fait dans la semaine, par exemple. Hein. Donc il y a des modalités comme ça qu'on peut construire. Vous n'avez pas fait ce choix-là, mais c'était une possibilité.
C'est un peu différent de l'analyse de pratique. Voilà. Il y a le stage où on est dans l'activité. Là, nous, c'est un apport de connaissances, ça peut attendre.
Absolument. Voilà. Et c'est vrai que le tutorat régulier se fait plus sur la co-construction de connaissances ou sur des analyses de pratique ou des liens comme ça. Oui.
Parce que il y a l'accès au cours avec les connaissances de base que j'ai repérées. Et pour passer aux questions, il faut d'abord avoir assimilé les connaissances de base.
Alors, nous, ça, c'est pas tout à fait par rapport à un pourcentage, mais c'est par rapport à un calendrier. C'est-à-dire qu'on met en ligne le cours à telle date. Il est ouvert pour les 3 ans. Mais par contre, les tests, on les ouvre un petit peu après. Parce que sinon, ils vont aller faire les tests et ils ne vont pas forcément regarder le cours. Bon, cela dit, ils peuvent aussi le faire, mais bon... C'est expliqué en présentiel avant, quand on expose la méthode. et le présentiel aussi, il ne faut pas qu'ils soient trop loin à distance. Parce qu'ils sont un peu frustrés de ne pas avoir leur réponse.
Donc c'est bien là, c'est
bon. Voilà, donc c'est une histoire, c'est un jeu de calendrier en fait.
Vous utilisez quelle plateforme
L'Orléos.
Moi, j'avais plusieurs questions aux différents intervenants. Oui, quelle est la plus-value dans l'enseignement pour les internes de la conception du PowerPoint par les PH de l'établissement par rapport à une reprise de formation générale? Et pour ma voisine, connaissez-vous la différence, l'écart de gain du cours visuel par rapport au cours papier?
D'abord, il est assez facile à voir. Quand je fais un cours PowerPoint à un groupe devant moi, j'ai un groupe certainement très hétérogène dans son niveau de connaissance, et je ne sais pas, certainement je vais répéter des évidences pour certains, et d'autres, ils vont avoir beaucoup de mal à assimiler les infos. Alors que dans le e-learning, celui qui a déjà très bien compris va passer très peu de temps sur le sujet, et celui qui n'a pas bien intégré au départ ou qui est novice va y passer beaucoup de temps.
Oui, et donc, c'est ma question. Pardon. C'est l'intérêt que ce soit le PH de l'établissement qui produise le cours par rapport à un PowerPoint. C'était en réponse en fait à la demande de mutualisation. Y aura-t-il une perte du fait que la formation soit produite pour plusieurs lieux, ou y a-t-il un gain? Moi, je pense qu'il y en a un, mais j'en sais rien. Au fait que ce soit dans l'établissement que la formation a été produite.
En termes de connaissances pures, je ne suis pas sûr que je n'ai pas d'éléments de comparaison. Par contre, en termes de créer du lien entre les formés et le tuteur, qui sont les mêmes tuteurs qui sont sur le stage pratique, là, ça va apporter quelque chose, relation de confiance, et peut-être que dans le cas du stage pratique, les étudiants seront plus à même de poser des questions à celui qu'ils ont rencontré avant sur le cours donné. Cela dit, après, en termes de connaissances pures, en termes d'évaluation des connaissances entre quelqu'un d'extérieur et quelqu'un avec qui ils vont créer un affect, je pense, ça, je n'ai pas la réponse.
C'est intéressant.
Difficile à démontrer scientifiquement. Il faudra un gros palais, je pense.
Alors, la différence, c'est que par rapport au support papier, Là où je suis en c'est qu'ils ont besoin d'éditer le cours en PDF. Ils ont besoin, certains, d'avoir un support papier pour les rassurer. Dans le e-learning, c'est qu'on se dit qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vont facilement vers Internet et qui vont moins facilement vers un livre aussi. Donc c'est pour cibler ces jeunes-là. Après, c'est vrai que c'est une méthode parmi tant d'autres et qu'elle ne fera pas des adeptes pour tous. Mais ce n'est pas forcément les jeunes qui vont y adhérer. Et quand on leur a présenté, on était étonnés parce qu'il y a eu la première fois qu'on l'a présenté en janvier 2009, il y a eu un tollé. Et moi, j'ai été vraiment sidérée de voir qu'ils freinaient. Oui, mais alors il va falloir écouter ça chez nous et quand. Voilà. Et cette promotion qui avait eu une réaction assez vive, comme il n'y avait plus rien en deuxième ou troisième année en e-learning, ils en ont réclamé cette année. Parce que ça leur manquait.
Bah oui, c'est la...
Voilà. Donc ça sera une aide, une facilité pour ceux qui ont qui sont plus auditifs et qui ont besoin de. Voilà, ils ont les deux, ils ont le support écrit, ils ont le commentaire et ils ont tout ça.
Est-ce que je peux avoir le micro, Justine? C'est vrai, il y avait une question. Pour compléter ce que vous disiez, bon, j'étais enseignante pendant 10 ans, là arrive dans les lycées, enfin en France, les tableaux numériques interactifs, qui sont typiquement des plateformes de e-learning. Donc c'est forcément l'avenir.
Mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit uniquement ça. C'est une méthode,
c'est
avec d'autres.
Vous avez dit 12 heures sur 45, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12 heures sur les 45, ou il y a d'autres choses. C'est 12 heures de distance, enfin à distance de l'e-learning. Et est-ce qu'il y a d'autres cours d'organiser au sein du PSI, ou c'est du temps personnel?
Non. C'est 12 heures sur 30 heures que comporte l'unité d'enseignement. Mmh. Et donc sur les 30 heures donc, que comporte l'unité d'enseignement, il y a eu 12 heures consacrées donc, à un enregistrement e-learning. Mmh. Voilà. Bah, mais le reste, bah, écoute,
pour les étudiants, ils avaient un temps. Ils avaient des disponibilités pour rester chez eux ou venir à l'école. Pour, voilà.
Mais le reste du temps, donc 12 heures, donc 18 heures, ils étaient en
cours. D'accord.
Un des éléments que j'ai trouvé très intéressant dans votre, ce qu'on constate à chaque fois, hein, c'est qu'en réalité avec le e-learning, il y a un rapport au temps qui change énormément. Ouais. Donc on peut d'ailleurs être beaucoup plus exigeant. Vous, vous avez constaté une augmentation des scores, mais très simplement, quand vous faites une interro écrite en cours, c'est des pratiques qui existent quand même beaucoup, vous allez vous dire, bon, bah, 10 sur 20, c'est bien. En e-learning, vous pouvez dire facilement que vous exigez, enfin, que votre niveau d'exigence, ça va être 75%. Et vous l'aurez, pourquoi ? Parce que les gens peuvent y revenir. Et du coup, on a un rapport au temps très différent. Donc moi, j'ai trouvé très intéressant, et j'ai trouvé intéressant qu'au travers des différentes présentations, dans l'e-learning, on finit par dire qu'on fait du présentiel et que c'est très important d'en faire. Mais on en fait différemment, on en fait pour poser des questions et pour répondre à des questions. Donc c'est beaucoup plus constructif en termes de pédagogie.
Merci. Moi, je voulais poser une question à la dernière présentation. Médecin urgentiste de Troyes, est-ce que vous utilisez de la vidéo dans votre, sur votre plateforme? Est-ce qu'il y a une possibilité de diffuser de la vidéo? Parce que c'est beaucoup trop lourd pour votre infrastructure informatique. Et deuxième question, est-ce que vos formateurs sont payés lorsqu'ils interviennent? Et comment est-ce que vous faites pour recruter? Parce qu'il y a quand même, en termes de motivation au suivi, c'est une donnée générale, hein, c'est quand même un facteur commun de réussite. Si on est motivé, on suit du learning, on en fabrique depuis 7 ans et on sait comment ça marche. Et pour les formateurs également, qu'est-ce qui les amène à utiliser des plateformes comme la vôtre et à venir alimenter vos contenus?
Aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo sur notre plateforme. Cela dit, c'est simplement, avant de faire grand, on a commencé petit. On est limité en termes de poids, mais je crois que le poids des fichiers, ça va jusqu'à 10 mégas par fichier. Donc finalement, on pourrait faire quelque chose d'acceptable. Cela dit, la vidéo, on est dans le geste, et pour ça, on a un autre type d'atelier, qui est la démonstration. Cela dit, par exemple, pour l'atelier mise en place, par exemple, de la ventilation invasive, on en respire avec un masque, il y a une séance d'e-learning qui prépare cette séquence. Comme ça, quand ils arrivent à la séquence geste, ils ont déjà toute la partie théorique qu'ils ont intégrée tout seul. Bon, c'était une aparté. La deuxième question, c'est concernant la rémunération des formateurs. En fait, c'est une histoire de motivation. Je vais voir chaque formateur personnellement, leur expliquant l'intérêt de la méthode. En général, c'était des personnes qui faisaient déjà des PowerPoint, mais quand ils avaient le temps, sur le coin d'une table. Alors que là, c'est clairement formalisé, structuré. Et c'est du temps bénévole. En fait, pour vous tout vous dire, les médecins urgentistes, normalement, ils commencent à 8h30 l'arrivée dans le service. Et là, je leur demande, une fois dans le semestre, quand ils ont en charge un cours, de venir à 8h. Et la séance a lieu de 8h à 8h40, ce qui fait qu'on ne mord que 10 minutes sur le temps de soin, et ce qui permet en 40 minutes d'avoir le médecin présent. Mais c'est du bénévolat. C'est pour ça que je pense que ce modèle, peut être pour qu'il soit généralisable, il doit être réfléchi en profondeur avec des personnes qui ont la formation en modèle économique.
On va laisser la conclusion au président.
Mais en fait, ce qui m'a intéressé, moi, ce matin, dans ces cinq interventions, d'abord qu'elles étaient très variées. Et puis, en plus, deuxième point qui était intéressant, c'est qu'elles montraient, justement, je vais en revenir à la question qui a été posée un petit peu, ou deux ou trois questions qui ont été posées, là. Elles montraient que, finalement, il y a beaucoup de motivation, il faut beaucoup de motivation, et pas obligatoirement beaucoup d'argent. Parce qu'on a tellement l'habitude, je viens de développer, vous parlez de gériatrie, je viens de développer un module européen pour les gériatres. Je ne dirai pas la somme pour la Société européenne de gériatrie, je n'en aurai pas la somme parce que je suis une phase professionnelle, mais on est loin de ce que vous avez développé, bien évidemment, et donc on est loin de ce que vous avez développé en argent, bien évidemment, c'est rien à voir. Vous savez tous que la moyenne, qu'un e-learning moyen, c'est à peu près autour de 20 000 euros, et un service gaming moyen, pas conseillé qu'on va voir cet après-midi qui est une Rolls-Royce, hein, Pulse, c'est une Rolls-Royce que vous avez la chance d'utiliser, je pense à l'école européenne de chirurgie, mais un service gaming moyen, c'est à peu près 80 000 euros, donc c'est des sommes qui sont absolument fabuleuses. Or vous avez développé votre exemple, ou l'exemple des UCI et l'exemple de vos confrères algériens, vous avez développé des modèles qui sont très très bas coût, hein, et qui sont basés beaucoup, ça c'est sûr, sur la motivation, le bénévolat, parce qu'on ne peut pas toujours, ça dépend du modèle économique, pas toujours se permettre. L'autre intérêt de ces cinq présentations, et je tiens vraiment à remercier les cinq orateurs, c'est d'avoir justement montré également quelques points forts de ce qu'est e-learning. Donc, on a parlé Blended, l'association donc présentielle distancielle qui est visiblement quelque chose qui, il y a 3-4 ans, on pensait à la limite que l'e-learning allait remplacer le présentiel, puis on est revenu, il faut quand même bien... Heureusement d'ailleurs, hein. C'est quand même très important. Vous avez, nos confrères algériens, montré les liens qui sont extrêmement importants également, hein, qui comptent. J'aime beaucoup, alors moi en tant que personne de la presse et de l'écrit, tout ce que vous avez fait sur la veille et le tri des articles, pour moi c'est extrêmement, extrêmement important. J'ai également et beaucoup apprécié, vous avez dit sur les problèmes techniques qu'il ne faut pas sous-évaluer et qui sont extrêmement importants, vous l'avez tous plus ou moins dit, et on est souvent très très étonné du bas niveau, entre guillemets, qui diminue parce qu'il y a la génération Y qui arrive, hein, mais du bas niveau de connaissances moyens en technique et en web, et il ne faut jamais le sous-estimer, faire des guides là-dedans, c'est extrêmement, extrêmement important. Et puis également, j'aimerais également le problème du tutorat que vous avez donc soulevé, qui est également un problème extrêmement important, qui est aussi un problème de lien tout simplement, parce que finalement, le e-learning, ben, ça va être ma conclusion, ça ne remplacera jamais l'homme.